France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Christ est ressuscité. Chers amis, une émission aujourd'hui sur la fête de Pâques que l'Église orthodoxe célèbre en ce jour. Et nous commençons par un entretien avec le Père François Espéré sur la réédition aux éditions des Clefs de Beauvert d'un ouvrage magistral qui a fait date dès sa parution en 1959, intitulé « L'orthodoxie ». Ce livre a été écrit par Paul Evdokimov, qui fut une grande figure de l'orthodoxie au XXe siècle. Père François, Christ est ressuscité.
En vérité, il est ressuscité.
L'orthodoxie de Paul Evdokimov est une grande synthèse de l'enseignement de l'Église orthodoxe. Et en lisant l'avant-propos de cette nouvelle édition que vous avez écrite, on s'aperçoit que vous placez d'emblée cet ouvrage dans la joie de la résurrection, ce qui bien sûr le rend tout à fait actuel en ce jour pascal. Alors qu'en est-il en fait ?
Cet ouvrage, je l'ai découvert providentiellement dans une librairie d'occasion de la Montagne Sainte-Geneviève en cherchant tout autre chose. Je l'ai mis un peu de côté, puis un jour j'ai commencé à le lire et j'ai découvert l'orthodoxie qui m'était presque parfaitement inconnue. Et cette découverte a en effet été lumineuse, non pas d'une lumière éclatante comme un flash dans la nuit, mais d'une lumière continue, diffuse, que j'ai retrouvé à chaque page de ce livre. Et c'est pour ça que ce livre m'évoque volontiers une fête de Pâques continuée chaque jour.
Écoutez, on va d'abord dire quelques mots sur l'auteur, Paul Evdokimov, qui est un grand nom.
Paul Evdokimov, c'est un grand nom de l'orthodoxie française. Une orthodoxie qui a eu des formulations théologiques particulièrement lumineuses, qui ont rejailli bien au-delà des seuls orthodoxes, puisque Paul Evdokimov a été invité à participer au Concile de Vatican II et qu'il a été un grand artisan de la redécouverte des pères, et notamment des pères grecs que l'Occident ignorait ou connaissait mal. Et comme Vladimir Lossky, c'est un grand théologien de l'exil. C'est parce que l'un et l'autre ont vécu en exilé qu'ils ont trouvé, de mon point de vue, des formulations si lumineuses, puisque la condition réelle de l'Église ici-bas, c'est une condition d'exil. Et donc cette théologie de l'exil s'est retrouvée être une théologie du salut, ce qui est parfaitement conforme à ce qu'on trouve dans les Écritures.
On doit beaucoup de textes et d'ouvrages à Paul Evdokimov, bien sûr, qui ressortent de temps en temps et on les découvre ou redécouvre toujours avec beaucoup de joie. Et ici, on a un exemple tout à fait remarquable de cet esprit très ouvert, d'ailleurs, qui est très bien adapté aussi au siècle dans lequel il vit, au XXe siècle, et qui, en même temps, reste ancré dans la tradition orthodoxe. Alors, on voit aussi qu'il y avait, à l'époque, une préface qui était faite par Olivier Clément, qui est un autre grand de l'époque, si je puis dire. Et donc, on voit qu'il y a cette synthèse de personnes qui ont beaucoup compté pour l'orthodoxie, non seulement française, mais en Occident en général. Alors, je voudrais maintenant un premier regard sur le livre entier, parce que ça a l'air d'un livre savant. Alors, à qui s'adresse-t-il ?
C'est un livre qui a l'air savant quand il reste posé sur l'étagère de la bibliothèque ou qu'il est seulement feuilleté. Mais dès qu'on ouvre ce livre, dès qu'on s'y aventure, et c'est un livre que j'ai beaucoup conseillé aux paroissiens ou aux personnes désireuses d'approfondir l'orthodoxie, et tous ceux qui le lisent en ressortent avec une grande impression de clarté. C'est un livre qui est rempli de sagesse et pas forcément d'érudition scientifique qui a absolument aucune arrogance philosophique. Le savoir n'est jamais un piédestal depuis lequel Paul Evdokimov nous écrase de sa très grande connaissance. Il nous parle toujours avec beaucoup d'humilité et de délicatesse et ses innombrables références patristiques qu'il nous apporte, il nous les apporte toujours à l'endroit où nous sommes. C'est un livre qui a besoin d'assez peu de prérequis pour être lu, et c'est en cela que c'est une véritable somme vivante. Donc, de mon point de vue, ce livre est aussi une très bonne nouvelle parce qu'il démontre que la plupart des personnes humaines peuvent accéder aux vérités, même aux vérités profondes de l'Église. Jamais personne ne m'a dit, après avoir lu ce livre, qu'il n'avait pas compris C'est un livre d'une grande clarté, c'est un livre qui permet d'élucider les vérités de la foi et de ne pas s'enfermer dans une piété seulement cordiale, mais d'intégrer aussi les facultés intellectuelles dans la compréhension de ce Dieu qui s'est incarné aussi en tant qu'être pensant. Et dans ce livre, en particulier comme dans l'orthodoxie en général, ce qui ressort, c'est le grand équilibre. La totalité des facultés humaines sont engagées dans la foi, et Paul Evdokimov, dans l'orthodoxie, traite de l'intégralité des dimensions de l'Église et de l'intégralité des dimensions de la révélation. Ce qui est cérébral n'écrase pas ce qui est cordial, et ce qui est cordial n'écrase pas ce qui est cérébral, et nous croyons avec le tout de l'homme.
Comme vous le dites, c'est une somme. Alors je vais donner un peu la table des matières, comme ça on comprend comment le livre est construit. Alors introduction historique. Première partie, anthropologie. Deuxième partie, ecclésiologie. Troisième partie, la foi de l'Église. Quatrième partie, la prière de l'Église. Cinquième partie, l'eschaton ou les choses dernières. Il passe en revue, en fait, l'ensemble de la vie chrétienne, je dirais, et de l'enseignement de l'Église. Alors, vous dites que vous avez conseillé la lecture de ce livre, même à des paroissiens qui peut-être n'étaient pas tout à fait habitués à ce genre de lecture et qu'ils en sont sortis tout à fait émerveillés et convaincus.
Ils en sont sortis émerveillés et convaincus parce que ce livre peut se lire comme moi, je l'ai lu passionnément et d'une manière linéaire, mais son chapitrage permet aussi d'accéder à tel chapitre ou à tel endroit directement. Un chrétien qui se pose des questions sur la place de l'homme dans le monde trouvera beaucoup de réponses dans le chapitre anthropologie. Un chrétien qui s'intéresse à la fin des temps, au messianisme, à la seconde venue du Seigneur, trouvera son bonheur à la fin de ce livre. Et dans l'intervalle, ce qui est particulièrement précieux, Paul Evdokimov explique en profondeur ce qu'est l'Église. Beaucoup de chrétiens, catholiques, orthodoxes, ont souvent le mot « église » à la bouche, mais bien peu d'entre eux savent parler de l'Église. Et Paul Evdokimov explique très bien ce qu'est l'Église et comment il nous est permis et demandé d'y participer.
On va essayer de se concentrer sur ce caractère pascal. Le jour l'appelle, hein. Aujourd'hui, la fête d'aujourd'hui, le sommet de l'année liturgique, le sommet de la vie chrétienne. Alors, est-ce que la dernière partie qui parle justement des temps à venir est une partie que vous trouvez particulièrement résurrectionnelle, comme ça, enfin, riche du message de la résurrection?
Oui, elle est riche du message de la résurrection et d'une manière qui vient nous vivifier, puisque nous avons tendance, nous autres chrétiens, à inscrire la résurrection uniquement dans un passé, comme si tout était déjà advenu. Et il y a dans la dimension de la foi de l'Église une espérance, une attente de la venue du Sauveur, une attente particulièrement ardente, et cette attente est inséparable de Pâques. Et Paul Evdokimov est un très bon explorateur de ce plérôme, de cette manifestation totale du divin que nous attendons non pas pour après le temps, mais que nous attendons en un sens dès ici-bas, dans notre quotidien, en participant dès ici-bas à la vie divine, ce qui est le sens profond et particulièrement concret de la fête de Pâques, dont nous devons sortir avec la ferme intention de participer à la résurrection, de vivre comme si la résurrection avait déjà changé notre vie, lui avait déjà conféré une dimension d'éternité, conféré ou rendu la dimension d'éternité qui était la sienne au commencement.
Puisque vous êtes prêtre de paroisse, je dirais, et vous prêchez dans votre paroisse le message de la résurrection, est-ce que vous conseillez aux personnes de commencer par ce livre, de chercher la vérité du message de la résurrection là-dedans? Est-ce que vous le mettez en parallèle avec un autre livre, un autre texte, l'hymnologie peut-être?
Moi, je conseille toujours aux gens qui veulent approfondir les vérités de l'Église, les vérités de l'orthodoxie, de lire l'orthodoxie de Paul Evdokimov et de lire les livres de Vladimir Lossky. Ces deux Russes qui parlent français, qui écrivent le français mieux que la plupart des écrivains français, qui ont un style enlevé, magnifique, et qui arrivent à aller très profondément dans les vérités théologiques, sans lourdeur et sans exclure le lecteur. c'est-à-dire qui arrive à nous accompagner grâce à une langue lumineuse au cœur de la lumière. Et en tant qu'écrivain, par ailleurs, je suis très attaché à ce que l'écriture théologique soit aussi lumineuse que celui dont elle traite, celui qui est lumière, celui qui a traversé les ténèbres. Et cette théologie de la lumière, quoi de mieux que ces deux théologiens qui ont su écrire de manière lumineuse dans une langue qui n'était pas leur langue originelle et qui nous ont amené la bonne nouvelle avec une radicalité de lumière que nous ne connaissions pas forcément ou que nous avions oubliée ou qui était parcellaire, alors que là, ils nous la livrent totalement, dans une somme totale où chaque élément brille de la même lumière que le tout.
Vladimir Lossky a une langue qui parfois est un peu difficile, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est chargée de termes aussi philosophiques. C'était un grand esprit, un grand érudit aussi. Et tout à fait. Est-ce que vous, en tant que prêtre qui s'adresse à ses fidèles, vous êtes inspiré par ces deux auteurs et dans, même dans le vocabulaire, dans la manière de faire? Je dis ça parce qu'ils ont tous les deux l'air, surtout Lossky évidemment, un caractère un peu savant.
Hein. La construction des vérités théologiques est savante, peut être savante, mais le résultat est toujours très simple. Le chapitre de Vladimir Lossky sur l'esprit qui diversifie alors que le Fils unifie, peut-être que ce chapitre est compliqué, mais n'importe qui dans l'Église peut comprendre que la force d'unité et la force de diversité travaillent l'une et l'autre comme le Fils et l'Esprit l'Église. Donc peut-être que parfois le chemin est un peu ardu, comme quand on fait une randonnée, comme quand on monte. Mais ce qui compte, c'est que si on suit leur chemin, on arrive à des points de vue magnifiques sur l'Église. Et à notre époque, dans cette époque de conflits, de difficultés, les chrétiens ont besoin d'avoir des vues magnifiques sur leur Église. Et Paul Evdokimov est quelqu'un qui leur en donne, non pas une, mais dans ce livre, au moins une centaine de vues différentes de notre Église.
Écoutez, merci beaucoup. Alors, je vais lire un paragraphe de l'introduction du livre qui renvoie justement à ce message de résurrection que vous décelez dans cette lecture. Le message johannique de la victoire par laquelle le monde est vaincu, car la parole s'est faite chair et nous avons vu sa gloire, la contemplation même de cette gloire constitue l'essence de l'orthodoxie. Elle unit la croix au sépulcre scellé qui éclate sous la pression de la vie. Elle suit la marche triomphale du christianisme primitif qui inscrivait sur les sarcophages de tous les cimetières du monde la victoire sur la mort et la proclamait à ses carrefours. Saint Séraphin, disant à tout homme rencontré « Le Christ est ressuscité, ma joie », transmettait l'esprit même de l'orthodoxie, son allégresse qui est déjà la tonalité du royaume. Je pense que ce que vous dites, il le dit aussi et peut-être il vous inspire avec ça.
C'est exactement ça, le passage que vous venez de lire est au cœur de ce livre et au cœur de toute sa théologie puisqu'il est traversé de la même joie lumineuse quand il écrit son livre sur le mariage, le sacrement de l'amour et sur tous les sujets sur lesquels il a écrit et notamment aussi sur les icônes. Il y a encore et toujours cette joie de ce moment très particulier de la liturgie. Après la communion, nous avons vu la vraie lumière. Ce n'est pas seulement que nous espérons la voir, que peut-être nous la verrons, c'est que nous l'avons vue. Il nous a été donné dès ici-bas et de notre vivant de la voir et même de la communiquer aux autres. Pour le peu que nous avons reçu, il nous est donné aussi de le réverbérer, de le refléter. Et c'est toute l'espérance du chrétien ici-bas.
Je crois qu'on peut terminer cette partie avec ces belles paroles. D'abord, je rappelle la réédition donc du grand ouvrage « L'orthodoxie » de Paul Evdokimov chez Desclés de Brouwer, grâce peut-être à vous, Père François Spéret. Je rappelle aussi que vous êtes vous-même auteur et que nous avons eu souvent l'occasion de vous recevoir ici, en particulier sur des ouvrages avec des homélies, soit tirées des épîtres pauliniennes, soit à propos justement de la fête de Pâques et de sa préparation. Et c'est l'occasion peut-être pour nous y plonger de nouveau. Merci beaucoup.
Merci.
Et maintenant, l'extrait de la liturgie pascale par les chœurs de la Laure de Kiev et de l'Académie théologique de Kiev, sous la direction de l'hiérodiacre Geronti, sur une composition de Serge Rachmaninov.
Bon,
Et voici maintenant le message de Pâques du métropolite Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Enfants bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce jour, le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et l'allégresse. Le Christ, au matin d'un jour nouveau, se dresse hors du tombeau. Les ténèbres s'effacent face à la lumière qu'aucune nuit ne peut atteindre. Il n'a pas seulement triomphé de la mort, il a brisé, renversé, dépossédé de son empire. Et voici que l'humanité, en ce jour de gloire, découvre un destin nouveau, l'union avec Dieu, son Créateur. Le mystère de cette aurore ne se limite pas à un seul tombeau ouvert. Il est l'irruption d'un Dieu qui a pris sur lui le poids du monde et qui, par sa résurrection, l'a transfiguré. Il a connu notre chair, notre faim, nos angoisses. Il s'est avancé vers la mort avec la noblesse de celui qui sait qu'il n'aura pas le dernier mot. Il s'est mêlé à nos blessures, il a porté nos croix. Mais le voici ressuscité, et avec lui, l'humanité tout entière est récapitulée. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Être témoin du Christ ressuscité, c'est porter au monde ce que les hommes et les femmes attendent sans le savoir, un signe d'espérance que la vie ne s'abîme pas dans l'absurde, que l'amour n'est pas vain, que la fraternité n'est pas un rêve artificiel soumis aux contingences de l'histoire. C'est comprendre que nous ne pouvons pas séparer la lumière de Pâques du sort de ceux qui souffrent. Si le Christ s'est fait l'un de nous, alors nul ne peut être abandonné. Ce témoignage devient d'autant plus puissant que tous les chrétiens célèbrent cette année la fête des fêtes, l'année même où nous commémorons le 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée. Mais que signifie célébrer la résurrection si le monde demeure livré à la violence et à la haine? La paix ne sera pas l'œuvre du silence ni de l'oubli, mais celle des personnes qui auront su relever l'humanité et panser ses blessures. La foi chrétienne proclame que l'histoire a un sens, que l'humanité n'est pas faite pour la destruction, mais pour la lumière. La paix ne peut pas naître qu'une trêve entre deux conflits. Elle est l'expression de cette justice plus haute que nous ne cessons de chercher. Car toute paix qui n'est pas soutenue par l'Esprit finit par s'épuiser. C'est à cela que nous sommes appelés, non pas à contempler la lumière d'un matin lointain, mais à porter cette lumière au cœur du tumulte du monde. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en la résurrection, c'est vivre comme un ressuscité. C'est refuser que la peur ou le cynisme fassent de nous des captifs d'un monde sans espérance. C'est opposer à la loi du plus fort la certitude que l'humanité n'est jamais aussi grande que lorsque se tient du côté de la paix. Alors ne cherchons pas la vie parmi les morts, mais en celui qui en est la source. Ressuscitons avec le Christ en ce matin béni, car l'avenir n'appartient ni aux puissants ni aux résignés, mais à ceux qui savent que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux dans la joie de la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.
Et c'est avec le message du métropolite Dimitrios que prend fin Orthodoxie. une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Marie Le Peintre. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.